Vous écoutez, on lit pour vous.
Alimentation, le goût des autres. Un éditorial d'Agnès Bardon, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Mâcher et avaler un aliment solide pour se nourrir. La définition sur laquelle s'accordent généralement les dictionnaires renvoie à la dimension purement physiologique de l'acte de manger. Forcément réductrice, elle ne dit pas combien ce geste quotidien, pétri par les imaginaires culturels, les interdits et les représentations sociales, est au cœur d'enjeux cruciaux. L'essor de l'industrie agroalimentaire depuis la deuxième moitié du XXe siècle et la mondialisation ont bouleversé nos habitudes alimentaires. Dans de nombreuses sociétés, elles sont passées d'une consommation locale, rythmée par les saisons, à la généralisation de produits transformés et importés. Cette mutation a des conséquences environnementales dont les effets se font sentir avec une acuité nouvelle aujourd'hui. Elle pèse également sur la santé des consommateurs, sur fond de crise climatique, de famine ou pénuries alimentaires. Chaque plat, chaque recette, chaque ingrédient porte en lui les marques d'une histoire collective et qui témoigne des influences culturelles léguées par l'histoire. La pomme de terre, la tomate, le maïs ou le cacao ont traversé l'Atlantique pour s'implanter en Europe, où ils ont révolutionné la cuisine. Inversement, les Européens ont introduit de nouveaux produits tels que le blé, la canne à sucre ou les agrumes qui ont transformé les habitudes d'autres continents. Rien d'étonnant à ce que tant de traditions culinaires, de la diète méditerranéenne à l'art du pizzaïolo, en passant par les savoir-faire liés à la production du couscous, soient inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO comme autant de moyens de faire société, de vivre ensemble et de nourrir le dialogue entre les peuples. La culture du pain plat, inscrite en 2016 à l'UNESCO par l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Turquie, offre un bel exemple du rôle social, culturel et symbolique que joue un aliment dans la vie de tous les jours et lors des grandes occasions, mariage, naissance, funérailles ou prières. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. La cuisine parle de nous, de nos émotions, de nos plaisirs et de nos rêves. Déjà Confucius, dans le Luniu, rappelez qu'on ne se lasse jamais des mets délicieux et savoureux. Quelques siècles plus tard, le philosophe Gaston Bachelard assurait que manger, c'est une fête pour les sens. La cuisine est une invitation à un véritable tour du monde. À table. C'était « Alimentation, le goût des autres », un éditorial d'Agnès Bardon, paru le 4 avril 2025 dans le courrier de l'UNESCO.
Les nuances de la sororité. Un texte de Noémie Emmanuel, paru le 1er avril 2025 dans Axel. Le terme « sororité » désigne l'horizon politique que l'on se donne dans de nombreuses luttes féministes. Il s'inspire d'un lien de parenté, alors que la famille est aussi parfois un champ de lutte, de rivalité, voire de violence. Elles sont féministes, investies dans la société civile, artistes ou architectes. Axel les a interviewées pour essayer de cerner les contours de cette sororité politique, dans quelle mesure elle permet de faire famille autrement et quelles en sont les limites. Panda Diouf est autrice de théâtre franco-sénégalaise. Elle a aussi milité dans l'association antiraciste Les Indivisibles. Sa dernière pièce, intitulée sœur. Nos forêts aussi ont des épines, mettent en scène deux sœurs qui, à l'occasion d'une balade en forêt, évoquent leur enfance, leur héritage commun, mais également les rivalités et la distance qui les séparent. Elle explique à Axel. Très souvent, on va avoir, au-delà de la sororité, des idées sur le monde, très larges, très généreuses, mais qu'on n'applique pas forcément au sein de cette cellule sociale plus petite qui est celle de la famille. Je me suis dit, autant commencer par cette petite cellule. Ainsi, c'est commencer le travail de manière un peu plus humble, par le quotidien, le concret, et puis l'élargir à la société de façon à vraiment pouvoir changer les choses. C'est que la famille peut aussi être un champ de lutte, un lieu de rivalité, voire de violence. La psychologue Stéphanie Hax, par exemple, travaille sur le soutien des fratries lorsqu'un ou une des membres a subi l'inceste ou fait son coming out. On peut trouver, bien sûr, dans la cellule de la famille traditionnelle, le soutien, mais parfois, c'est ailleurs qu'il faut chercher le lien, la solidarité. La famille choisie. Dans « Un désir démesuré d'amitié » chez Seuil 2024, Hélène Giannacchini propose de questionner les vertus de ces familles choisies qui permettent d'instituer de nouvelles manières d'exister. Ces familles sont fondamentales dans les trajectoires des personnes gays, lesbiennes, trans, des formes de cohabitation, un soutien matériel et émotionnel quotidien, du soin qui dépasse les normes traditionnelles de la famille dite biologique. À travers une série de photographies provenant d'archives queers, Hélène Giannacchini se lance à la recherche d'une autre filiation, celle que sa famille biologique ne lui a pas transmise et qui fait pourtant partie de son histoire de femme lesbienne. La famille choisie joue aussi comme alternative à la solitude, aux inégalités et aux violences intrafamiliales. Irina, chargée de projet au pôle éducation permanente du CVFE, Collectif contre les violences familiales et l'exclusion, à Liège, et militante dans le collectif liégeois « Et ta sœur » entame un projet avec des femmes célibataires et sans enfants. Il y a une espèce de survente du célibat. Tu es célibataire, sans enfants? Vis ta meilleure vie, profite de tes copines, va boire un café. Mais ce n'est pas du tout ça la réalité du célibat. Quand on est une femme seule et sans enfants, surtout à partir d'un certain âge, qu'on n'a pas d'argent pour sortir, qu'on ne vit pas dans une grande ville. La sororité pourrait remplacer ce monopole familial et amoureux qu'il y a dans notre société. Rivalité, inégalité. Pour Valérie, directrice du pôle éducation permanente au CVFE, la sororité est un moyen de prendre ses distances et de questionner la compétitivité entre femmes que la société nous impose dès la naissance. Pour Irina, la sororité se trouve dans le soutien pratique et quotidien entre femmes. Et de citer sa collègue Annick, il y a déjà suffisamment d'agressions dans le monde extérieur pour que nous, entre femmes, on ne soit pas ensemble. On doit respecter et soutenir toutes nos sœurs, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit toutes les aimer. C'est que la solidarité entre femmes ne va pas de soi. Il s'agit d'un idéal à atteindre, mais qu'il ne suffit pas de décréter pour qu'il existe. Pour Penda Diouf, La sororité est d'autant plus difficile à mettre en place que nous vivons dans une société patriarcale qui fait que même en tant que femmes, nous intégrons des choses de ce système qui nous mettent en concurrence. De fait, l'appel à la sororité n'efface pas, par magie, les conflits et les inégalités qui opposent les femmes. Panda Diouf reconnaît que le terme de sororité peut recouvrir des réalités très différentes et qui sont, d'une certaine manière, invisibilisées, de façon consciente ou non, par l'idée globale de faire groupe, de faire commun. Les femmes sont divisées par le sexisme, le racisme, les privilèges de classe, l'homophobie, la transphobie. Comme l'a rappelé la féministe afro-américaine Bell Hooks, la solidarité politique ne consiste pas à nier ou à minimiser les différences, mais à les reconnaître, à s'y atteler, afin de mettre en œuvre la solidarité politique. L'histoire dont on hérite. Pour l'architecte à l'initiative de la plateforme, l'architecture qui dégenre et des journées du matrimoine, Apolline Vranken. Il ne faut pas minimiser le contexte politique et économique qui détermine les manières de faire société. C'est cette conviction qui l'a poussé à mener un travail sur les béguines, ces femmes veuves ou célibataires qui vivaient en communauté dès le XIIe siècle, sans dépendre d'une autorité ecclésiastique. Plutôt que des utopies abstraites, leur histoire nous donne à imaginer de nouvelles manières, concrètes, de construire de la solidarité. Pour Apolline Vranken, il y a toujours un fil rouge historique, des pionnières avant les pionnières, une sororité qui a traversé les époques, un ancrage historique. Le détour par l'histoire est en effet fondamental. Dans « Passeuse de l'ombre », une pièce précédente, par exemple, Penda Diouf racontait l'histoire d'Harriet Tubman. Cette femme afro-américaine, esclave affranchie et militante anti-esclavagiste. Les femmes blanches étaient les maîtresses de maison. Elles étaient parfois plus violentes que leurs maris, nous explique-t-elle. Pour moi, c'est important d'avoir le contexte historique, social, pour que les personnes puissent se situer. On a envie d'être sœurs, mais on ne vient pas toutes du même endroit, et certaines en oppriment d'autres dans ce large cercle qu'est la sororité. Je pense que c'est important de toujours se situer, d'être humble par rapport à qui on est et ce qu'on peut apporter, d'être à l'écoute d'autres expériences. Vous écoutez Les nuances de la sororité. Un texte de Noémie Emmanuel, paru le 1er avril 2025 dans Axel. Mixité, non-mixité. La non-mixité, le fait de se retrouver entre personnes concernées par une même oppression, semble aussi un outil important de la sororité politique. Apolline Vranken explique. Chez les béguines, il y a sororité parce qu'il y a non-mixité et inversement. Les deux sont nécessaires pour créer un mode de vie béguinal. Ce qui n'empêchait pas les béguines de consacrer du temps aux soins des enfants, des malades et des personnes âgées. Tout cela crée des poches de souplesse et une lecture plus fine de la non-mixité. C'est là que la solidarité politique entre en jeu. Bell Hooks, encore elle, avait pointé la nécessité, pour les féministes, de lutter contre des oppressions pour lesquelles on n'est pas soi-même concerné. Latifa Elm Kabeni en a fait l'expérience au sein du collectif des Madres qu'elle a cofondé avec des citoyennes et citoyens de tous horizons, concernés ou non par les violences policières. Pour elle, la mixité qu'il y a dans le collectif fait la force du projet. On a dû apprendre à parler le même langage et à communiquer sur comment chacun voit le racisme, la discrimination, pour pouvoir poser les bonnes questions dans les interpellations qu'on a rédigées ensemble pour le bourgmestre. On était plusieurs personnes de religion et d'âges différents. C'est cette force née de l'union de personnes totalement différentes qui a fait réagir les politiques. Grâce à leur action commune, en collaboration notamment avec la Ligue des droits humains et Bruxelles laïque, le collectif a obtenu en 2021 la dissolution de la brigade Unéus, coupable de violence contre des jeunes non-blancs à Saint-Gilles. Cette mobilisation au sein d'un collectif mixte n'empêche pas Latifa de s'investir également dans des espaces en non-mixité, comme le Front des mères, collectif de mères d'enfants non-blancs victimes de violences policières, dans lequel une autre parole est possible. On parle beaucoup de l'histoire de l'immigration, de la colonisation. C'est important de reconnaître notre histoire. On apprend aussi à parler de nos problèmes, à libérer notre parole, à ne plus avoir honte. La question de la mixité semble au cœur des mouvements contemporains qui se mobilisent pour la solidarité politique, certaines militantes préférant parler d'adelphité plutôt que de sororité. La racine Adelphe, A-D-E-L-P-H, a donné les mots « frère » et « sœur » en grec. Ce terme, non genré, permet d'inclure toute personne au-delà de leur identité de genre. L'ego contre le collectif. Même lorsqu'on est d'accord sur des principes, il reste encore des défis dans la pratique. Pour Irina, la sororité a des limites, y compris dans les collectifs militants. Les dominantes du groupe imposent leur manière de faire. L'ego et la quête de pouvoir prennent toute la place, alors que la sororité devrait être le centre de notre fonctionnement. Là encore, le détour par l'histoire nous rappelle que cela a déjà été présent, comme l'évoque Apolline Vranken. Chez les Begin, la grande dame, élue pour représenter la communauté, bénéficiait de privilèges, notamment des privilèges de classe. Le mouvement Beginal reproduit, malgré ses valeurs et malgré les vertus de la non-mixité, des inégalités et des oppressions, comme tout le milieu féministe belge actuel. Ici, aujourd'hui, il y a encore des femmes qui ont davantage de moyens que d'autres et qui peuvent se libérer du temps de travail pour militer, réfléchir, en engageant une femme d'ouvrage. Le détour par l'histoire des Begin nous apprend également que l'exposition médiatique des grandes figures du féminisme a du bon, mais amène aussi des travers. Apolline Vranken note : on ne peut pas être un collectif anonyme sans leader, porte-voix et figure qui incarne la lutte et, d'un autre côté, le principe même d'être représenté par une personne entraîne l'écueil de la starification. Il y a toujours le risque que les plus formées, celles qui possèdent le plus d'outils et de capitaux, prennent le pas sur les autres. C'est un écueil auquel le collectif « Et ta sœur ?» est attentif. Irina explique. On ne considère pas qu'il faut être au clair sur toutes les questions politiques ou atteindre tel niveau de radicalité ou se revendiquer de tel mouvement pour pouvoir participer à nos actions. Les femmes sont les bienvenues, là où elles en sont. Et puis, on évoluera ensemble. Rien n'est figé. Il nous faut nous donner des moyens d'apprendre, de reconnaître ce qui nous oppose et de nous apporter du soin, aussi bien dans les familles biologiques que dans nos amitiés et dans nos grandes familles politiques. Une manière de viser, toujours, la solidarité. C'était Les nuances de la sororité, un texte de Noémie Emmanuel, paru le 1er avril 2025 dans Axel.
Le risque associé à un tour de taille élevé dépend-il de la morphologie? Un texte de Catherine Enfield, paru le 4 mai 2025 dans La Presse. Témoignage d'une lectrice. Un tour de taille élevée est un signal de problème potentiel. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que la morphologie n'est pas la même pour tous. Je suis mince, j'ai un comportement presque exemplaire en matière de santé, et pourtant, je n'arrive pas à réduire mon tour de taille. Plusieurs études épidémiologiques à grande échelle l'ont montré. Le tour de taille est un indicateur plus précis que l'indice de masse corporelle, IMC, pour prédire le risque de maladies chroniques et de mortalité. Dans toutes les catégories d'IMC, c'est une relation parfaitement linéaire. Plus le tour de taille est élevé, plus le risque de mortalité augmente, résume le professeur Jean-Pierre Després, qui s'est beaucoup intéressé à la répartition de la graisse corporelle dans ses recherches. Le professeur Després cite les résultats d'une étude de la clinique Mayo aux États-Unis portant sur 650 000 participants suivis pendant 9 ans. Selon l'estimation des chercheurs, les participants au tour de taille élevée avaient une espérance de vie diminuée de 5 ans chez les hommes et de 3 ans chez les femmes par rapport à ceux dont le tour de taille était le plus petit. Fait intéressant. À tour de taille égale, le risque de mortalité était pratiquement le même dans les différentes catégories d'IMC. Notons toutefois que plus la catégorie d'IMC augmente, plus les participants sont nombreux à avoir un tour de taille élevé. L'obésité viscérale, la graisse à l'intérieur de la cavité abdominale, autour des organes et des muscles, est beaucoup plus dangereuse que l'obésité sous-cutanée, celle entreposée sous la peau. La graisse localisée dans les fesses et les cuisses agit un peu comme un réservoir pour stocker l'énergie des excès alimentaires, résume Jean-Pierre Després. En ce sens, elle est même protectrice contre le diabète et les maladies cardiovasculaires, dit-il. Maintenant, pour un même tour de taille, est-ce que le risque peut varier d'une personne à l'autre en fonction de la morphologie? Encore une fois, ça dépend de la répartition de cette graisse, répond Jean-Pierre Després. Certaines personnes ont des ventres mous, un peu comme des tabliers. Ce profil est plutôt associé à la graisse sous-cutanée, dit-il. D'autres personnes ont un ventre dur, comme une femme en milieu de grossesse. C'est celles-là qui sont particulièrement à risque. Nos hôpitaux en sont pleins, résume Jean-Pierre Després. Dans son laboratoire, le professeur a testé différents indicateurs pour distinguer l'obésité viscérale de l'obésité sous-cutanée. Et le plus discriminant était aussi le plus simple, dit-il. C'est le taux de triglycérides, la forme de lipides la plus commune dans le corps, dans le sang. Jean-Pierre Després résume. Si vos triglycérides sont bas, si votre tension artérielle est normale, si votre glycémie est normale, ce n'est pas compliqué. Le tour de taille que vous avez, vous ne voulez pas qu'il augmente avec l'âge, vous voulez le garder. Les personnes qui ont des résultats moins favorables, prédiabète, triglycérides élevés, ont avantage à réduire leur tour de taille indépendamment du poids sur la balance, estime Jean-Pierre Després. Des études montrent qu'on peut obtenir des bienfaits significatifs en réduisant son tour de taille de 4 cm ou plus grâce à l'exercice physique et à une alimentation plus saine. Pourquoi certaines personnes ont-elles de la graisse sous-cutanée et d'autres de la graisse viscérale? Le patrimoine génétique jouerait un rôle de premier plan. Sur le plan évolutif, le gras viscéral pouvait aussi avoir un avantage, note le professeur Després. C'est un réservoir d'énergie facile à mobiliser, dit-il. Mais on n'est plus des chasseurs-cueilleurs. Si on ne brûle pas l'énergie, le foie va faire des lipides avec. Chercheuse à l'Université de Montréal, May Farage explique que le tissu adipeux sous-cutané peut être sain, mais peut être aussi malade. Normalement, si je mange un repas gras, après 5 ou 6 heures, le gras est complètement utilisé. Il sera pris par les tissus adipeux et entreposé, ce qui protège les autres organes, explique-t-elle. Mais chez quelqu'un qui a des tissus adipeux malades, le gras peut rester pendant 12 heures, et pendant ces heures, tous les tissus vont prendre le gras. L'activité physique, mais aussi la qualité de l'alimentation, l'alimentation méditerranéenne notamment, sont toutes deux associées à une réduction du gras viscéral et du tour de taille. Le poids peut être augmenté avec une nourriture saine qui protège le corps, mais il peut aussi être augmenté avec beaucoup de sucre, de gras animal, d'alcool, qui vont donner le profil de maladies et d'anomalies, résume May Farage. Ménopause. La chute des hormones sexuelles à la ménopause est associée à un changement de distribution des graisses. En perdant cette protection hormonale, les femmes accumulent plus facilement de la graisse viscérale. Elles vont développer un profil qui va tranquillement se rapprocher de celui des hommes, le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète augmente, explique Jean-Pierre Després. La beauté de l'histoire, c'est que la graisse viscérale est plus facile à mobiliser que celle de fesses ou des cuisses, rappelle le chercheur, d'où l'importance, dit-il, de faire de l'activité physique et de recalibrer ses habitudes alimentaires à cette période de la vie. C'était « Le risque associé à un tour de taille élevé dépend-il de la morphologie ?» un texte de Catherine Enfield, paru le 4 mai 2025 dans « La Presse ».